naïf qu'il pouvait la trahir. Hein ?
Qu'est-ce qu'elle a, votre copine ?
Grogna le plus jeune des trois soldats.
Elle fait la gueule ou quoi ?
Eden se laissait plotter, le visage aussi expressif qu'un caillou.
Chérie, tu pourrais dire un mot gentil à ce beau garçon,
l'encouragea sa sœur. Eden fixa le jeune homme qui l'enlaçait, son verre à la main.
Je t'aime,
dit-elle monocorde.
Ah, voilà!
On dirait pas, mais c'est une rapide,
fit son acolyte qui avait entrepris Ika.
Faut juste qu'elle se chauffe,
expliqua Petit.
Mais une fois que c'est parti, c'est une vraie locomotive.
Pas vrai, chérie?
Mais si les autres avaient avalé plusieurs gorgées de bière, le sergent n'avait pas touché à son verre.
Et toi, tu chauffes?
Relança-t-il.
J'ai l'impression d'être une bouillotte quand j'ai mes règles.
Quoi?
Petit fourra le visage du type entre ses cuisses. Vit les Mokoro qui les suivaient à distance longer la rive opposée, en silence.
« Tu sens ma chaleur, sergent ?»«
Ouais, d'ailleurs, on pourrait passer aux choses sérieuses. »«
Attends un peu que le désir monte, ce sera encore mieux. »«
Ben, j'en ai pour deux, » dit-il en se redressant.
« C'est bien une réflexion de sergent. »«
Allez, laisse-toi faire. »
Le soldat avait glissé ses serres sous sa robe et attaqué sa petite culotte. Si ses sbires commençaient à dodeliner, souriant comme des lunes saoules, le sergent avait gardé toute sa tête.
« Enlève ta robe, qu'on s'amuse !»«
Là ? » ?»«
On va aller dans les buissons, ou à l'intérieur, si ça te dérange pas qu'on voit ton cul. »«
Tu donnes envie, tu sais !»
Elle gardait son sang-froid, mais son cœur battait la chamade. Le canif caché dans son soutien-gorge ne la rassurait plus.
« Envie, ouais !»
glapit le sergent.
« Alors décide-toi, dehors ou dedans ?»
Les soldats sur les bancs déclinaient à vue d'œil, se plaignaient de somnolence malgré les efforts des filles pour les occuper. Priti sentit que les choses leur échappaient. Ika commençait à paniquer, un soldat à demi écroulé sur son ventre.
« Tu ne préférerais pas jouer à un jeu ?»
proposa Priti au dernier homme valide.
« Qu'est-ce que tu racontes? Quel jeu? Allez »
piaffa-t-il en se levant.
« Ramène-toi !»
Le jeune noir faisait une tête de plus qu'elle, près du double de son poids, tout en muscles et désirs inassouvis. Il saisit le poignet de Priti et l'attira sans ménagement vers le cabanon. Elle voulut résister, se fit molester en retour et le canif tomba dans la bagarre. Le sergent vit l'arme désuète sur le sol du cabanon, manifestement échappée de son soutien-gorge, et grimaça.
« Qu'est-ce que tu comptais faire avec ça, petite garce ?»
On ne jouait plus. Il déboutonna son pantalon et, serrant Priti par le cou, la força à s'agenouiller. John et Emcon avaient dépassé le poste frontière angolais sans se faire repérer. Le message envoyé depuis le portable du tueur ferait long feu. Il était probable que le tireur d'élite trouvé étouffé près du lodge avait John pour cible. Mais qu'importe si les trafiquants mordaient à l'hameçon. Les insectes virevoltaient à la lueur pâle de la lune. La pirogue du delta glissait sur l'eau sombre, eux scrutaient l'obscurité sans un mot. La fête avait l'air de battre son plein dans leur dos, mais les douaniers angolais se feraient berner plus facilement que le scorpion. John et Ancon étaient anxieux avant le combat, comme pendant la guerre de la frontière. L'effet de surprise compenserait le manque d'effectifs, mais ils n'avaient aucune idée de leur nombre, ni de la riposte que l'ennemi leur opposerait. Ils arrivaient enfin en vue d'un comptoir, le point de repli des braconniers, comme ils l'avaient escompté. Le croassement incessant des grenouilles couvrait le bruit de leurs pagaies tandis qu'ils se séparaient. Chacun posta son mokoro à couvert d'une rive, évitant les bulles et les ondes des hippos. Ancon débarqua à côté namibien, près d'un bosquet où il pourrait prendre position à portée de tir de son fusil, un calibre 338, la poids magnum, déjà chargé, avec deux boîtes de munitions en réserve. Le San se faufila entre les herbes hautes pendant que John accostait côté angolais, à 200 mètres du comptoir. Occupés à charger les camions, les hommes ne semblaient pas avoir remarqué leur manœuvre. Dans ses jumelles, John repéra un grand hangar près du ponton, une bâtisse de bois qui faisait office de logement, le garage avec une demi-douzaine de 4x4 et deux Zodiacs qui clapotaient près du ponton. Plus au nord, une zone dégagée pouvait servir de piste d'atterrissage pour un avion de tourisme ou un hélicoptère. Le Mokoro amarré à la branche d'un fourré, il vérifia son colt et progressa à couvert. À une centaine de mètres, faisant la navette depuis l'entrepôt, les petites mains transportaient des cages vers les